Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Du Grain à Moudre, c'est vendredi, c'est le club des idées du grain. La liberté assassinée en une du Figaro, un crime contre la liberté sur celle de Ouest-France, Le Parisien, ils ne tueront pas la liberté, L'Équipe, liberté 0, barbarie 12. Le 8 janvier 2015, au lendemain des attentats contre Charlie Hebdo, la presse française est unanime, c'est la liberté qu'on assassine, comme l'écrit en titre de première page L'Humanité. De nombreux dessins de stylos ensanglantés viennent illustrer le drame qui s'est déroulé quelques heures plus tôt. « Je suis Charlie » s'est déjà imposé, il signifie que nous ne transigerons pas avec la liberté d'expression. 3 années ont passé, Charlie Hebdo est toujours en kiosque, mais les ventes ont considérablement baissé. Son directeur, Rhys, raconte dans le dernier numéro ce qu'il en coûte au journal financièrement d'assurer la protection de ses membres. « Cette liberté, écrit-il, est en train de devenir un produit de luxe, voire un produit qui se raréfie, si l'on en juge par les effets castrateurs de la brutalité du débat public de ces derniers mois. » Alors 3 ans après Charlie, la liberté d'expression sans entrave. C'est la question que nous allons poser ce soir aux membres du club, à commencer par vous, Anastasia Colosimo, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes politologue et vous avez publié chez Stock, c'était en 2016, « Les bûchers de la liberté ». Je ne fais pas toujours référence à cet ouvrage, mais là, en l'occurrence, le sujet de ce soir s'y prête pour discuter avec vous. Sylvain Bourmeau, bonsoir.
Bonsoir, Hervé Garnett.
Producteur de la suite dans les idées sur France Culture le samedi à 12h45 et patron d'AOC, analyse, opinion, critique, site d'actualité consacré aux idées qui verra bientôt le jour d'ici la fin du mois de janvier.
Le 25.
Et puis Aude Lancelin, bonsoir.
Bonsoir.
Journaliste pour un certain nombre de médias et essayiste. Vous publiez d'ici quelques jours Au lien qui libère, la pensée en otage, s'armer intellectuellement contre les médias dominants.
La France a été attaquée dans ce qu'elle avait de plus sacré, la liberté d'expression, la République et l'égalité humaine. La France a su réagir avec dignité et fierté. Là où les terroristes voulaient la mettre à genoux, elle a fait face. L'esprit du mois de janvier 2015, c'est l'unité de la République.
Les assassins ont proclamé aujourd'hui que Charlie Hebdo est mort. Soyez sûrs d'une chose, ils ont tort. Aujourd'hui, demain, à Paris, en France et à travers le monde, le pouvoir de la liberté d'expression vaincra dans la lutte contre l'obscurantisme.
C'est une atteinte directe, sauvage, à l'un de nos principes républicains les plus chers, la liberté d'expression. Notre démocratie est attaquée, nous devons la défendre sans faiblesse. Nous devons continuer à dire ce que nous avons envie de dire. Et nous devons continuer à vivre comme nous voulons vivre.
Voilà, extrait de propos entendus début janvier 2015, après les attentats donc contre Charlie Hebdo, François Hollande, John Kerry, le secrétaire d'État américain, et Nicolas Sarkozy, qui tous, on aurait pu prendre énormément d'autres exemples, évoquaient donc cette atteinte à la liberté d'expression, cette attaque contre la liberté d'expression qui se serait exprimée contre Charlie Hebdo. Est-ce que 3 ans après, c'est comment dire une explication qui vous semble toujours tenir la route? Aude Lancelin.
Une explication, vous voulez dire?
Et ben, est-ce que l'attentat contre Charlie Hebdo était bien un attentat contre la liberté d'expression?
Ah oui, bah forcément. Je crois qu'on sera tous d'accord sur ce point. La situation de Charlie Hebdo est une véritable tragédie. Je ne vois pas comment, d'ailleurs, elle peut être résolue. Ces gens vivent véritablement dans une espèce de coffre-fort sous menace permanente. D'ailleurs, la vie à Charlie Hebdo, avant même les attentats, avant même les crimes de 2015, était déjà extraordinairement difficile. La plupart vivaient en permanence avec des gardes du corps. Pour toutes sortes de fanatiques, ils sont devenus le lieu du blasphème et ils portent ça. C'est cette situation est effectivement d'une tristesse absolue.
Sylvain Bourmeau.
Pour répondre à votre question, oui, bien sûr, la liberté
d'expression. Si je pose la question, ça peut peut-être paraître une question un petit peu saugrenue, mais c'est toujours aussi intéressant de voir quelques mois ou quelques années après si les premières réactions et les premiers commentaires qu'on fait d'un événement sont toujours analysables de la même manière ou si il faut un peu les complexifier.
Hélas, les choses n'ont pas été compliquées ce jour de janvier et l'interprétation sans doute encore plus facile que lors des attentats 6 mois plus tard qu'a connu Paris et les alentours de Paris, puisque C'était plus compliqué de dire ce qui était visé en novembre. C'était un mode de vie, des libertés plus difficilement définissables que la liberté de la presse, par exemple, qui était clairement prise pour cible avec l'attentat de Charlie Hebdo. Même si, évidemment, il s'agissait aussi de libertés qui étaient visées en novembre. Donc la bataille d'interprétation pouvait être un petit peu plus disputé autour de l'interprétation des attentats de novembre. Mais pour ce qui est de janvier, il me semble que, comme vient de le dire très bien Aude Lancelin, Charlie Hebdo est devenu une cible pour un certain type de terrorisme depuis la publication, la reprise des publications par le journal danois. Les attentats d'il y a 3 ans s'inscrivent dans une suite longue. Quelques mois avant ces attentats, Charlie Hebdo avait été incendié, ils avaient dû quitter leurs locaux, on les avait hébergés à Libération un moment, ils vivaient déjà dans cette... et puis avant ça, la protection durait. Donc oui, mais ça me semble une évidence que la liberté d'expression a été attaquée ce jour-là. Simplement, ce qui peut-être fait débat et peut faire débat, et ce dont on va parler, j'imagine, ce soir, c'est ce qu'on entend par liberté d'expression. Mais cette définition a minima, je dirais, de la liberté d'expression, oui, elle a été prise pour cible de façon frontale ce jour-là.
Anastasia Colosimo.
Je suis pas sûre de pouvoir apporter quelque chose de plus sur cette question précisément. Je pense que le choc venait du fait qu'il y a encore un débat qui est très fort autour de la liberté d'expression dans nos démocraties, mais c'est un débat qui se règle au niveau législatif, au niveau judiciaire dans les tribunaux, par un débat d'opinion dans les médias. Et on était très loin de s'imaginer en fait que en 2015 à Paris, des journalistes pouvaient être assassinés pour des caricatures. Je pense que le choc vient de là, et il est évident que c'est la liberté d'expression qui a été visée. C'est évident aussi que c'était tout un mode, je pense, plus général, un mode de vie, un mode politique, un mode de pensée qui était visé. C'est pas neutre aussi d'attaquer Charlie Hebdo. C'est pas neutre par rapport à ce que Charlie Hebdo représente en termes d'irrévérence aussi.
Pour préciser peut-être le sens de ma question, alors il y a évidemment une atteinte à la liberté d'expression, mais c'est vrai que ça a été aussi très fortement ressenti, me semble-t-il, d'abord parce qu'il y avait cet effet de surprise. On était dans une phase où on n'était plus habitué à ce que pouvaient être justement des attaques terroristes. Et par ailleurs, ça visait justement la presse. Or, c'est la presse qui témoigne la première de ces atteintes. Est-ce que, par exemple, vous qui êtes journaliste, Aude Lancelin et Sylvain Bourmeau, vous vous êtes senti menacé justement par ces attentats, parce que journaliste, parce que appartenant à ce monde de la presse? Moi, juste pour donner un tout petit témoignage, j'avais été assez surpris, pas du tout choqué, mais juste un peu surpris de voir, par exemple, la ministre de la Culture à l'époque, Fleur Pellerin, venir à Radio France pour exprimer son soutien. Moi, j'étais, par exemple, présent à la rédaction de France Culture, pour exprimer son soutien de l'État, du gouvernement, aux journalistes. Alors que, spontanément, je ne m'étais pas senti, si vous voulez, visé. Je ne me sentais pas du tout appartenir à la même catégorie que les gens de Charlie Hebdo qui avaient été assassinés. Aude Lancelin.
Pour parler d'une anecdote, oui, nous vivions sous protection policière à l'époque, hein, pendant plusieurs semaines après les attentats de Charlie Hebdo, enfin, dans le hall du journal. Bon, il y avait vraiment une surveillance très très accrue. Être une cible de cette nature est finalement un honneur. On ne peut pas le revendiquer quand on ne prend pas de risques vitaux comme ces gens-là en ont pris, parce que je pense que quelqu'un comme Charb était quand même extrêmement lucide sur les risques encourus. Mais évidemment, je pense qu'on a tout, on était tous en état de sidération dans la presse, forcément. Moi, j'ai deux amis personnels qui ont été touchés dans l'attentat. L'un est mort, Tinius, avec qui je travaille à Marianne, un dessinateur, un personnage absolument solaire et charmant, et Philippe Lançon, qui porte encore de graves blessures de cet attentat. Philippe, qui était à Libération. Donc, oui, on a tous été directement atteint, oui.
Et on a tous témoigné, ou en tout cas manifesté, évidemment d'abord un soutien à Charlie Hebdo. Ça s'est notamment traduit par un fort taux de surabonnement à ce journal. Ça a bien changé depuis, hein. Ça a énormément diminué. Est-ce que vous avez l'impression que finalement ce soutien très fort et tout à fait légitime, Sylvain Bourmeau qui s'est exprimé auprès de Charlie Hebdo, on a fini un petit peu peut-être par oublier comment dire, les engagements qu'on avait pris à défendre justement cette liberté d'expression.
Mais non, mais tout dépend ce qu'on entend par liberté d'expression. Mais je vais le préciser, mais juste avant, pour poursuivre dans la lignée de ce que vient de dire Aude Lancelin, j'ai pas vécu ça comme journaliste. D'abord, j'ai du mal à me vivre comme journaliste. J'ai pas de carte bleu, blanc, rouge. J'ai jamais voulu en avoir pour ça. Donc, j'ai pas un rapport corporatiste de journaliste au monde. Donc, ce jour-là, effectivement, moi aussi, il y a des gens qui sont morts, que je connaissais, qui étaient pour certains, oui, des amis ou des connaissances, des gens avec qui j'avais travaillé, d'autres qui ont été blessés. Donc, quand il se passe quelque chose comme ça, d'abord, il y a une sidération très grande. Quelques mois avant, à Libération, il y a eu une attaque. On ne savait pas si ça relevait du terrorisme, du fait divers. Il a fallu attendre assez longtemps pour le comprendre. En attendant, il y a l'assistant d'un photographe qui a failli mourir. Et c'était pendant une conférence de rédaction. Je peux vous assurer que quand il se passe quelque chose comme ça, que vous êtes bloqué à l'étage, que vous ne savez pas ce qui se passe en bas et que vous avez des bribes d'informations, d'abord, il y a un sentiment d'irréalité totale. Et c'est ça qu'on a retrouvé, démultiplié, et même en étant beaucoup plus loin après.
Donc, alors, s'agissant de la liberté d'expression, vous dites que ça dépend ce qu'on entend par ce terme.
Ça dépend. Mais, non, mais se dire, Charlie, quelques jours après l'attentat, dans la rue, dans cette manifestation, c'est de défendre la liberté d'expression. Et c'était très fort, et c'était, à mon sens, très très important. Mais se dire Charlie comme ça pour défendre la liberté d'expression, ça ne veut pas, par exemple, se dire qu'on va se mettre à acheter Charlie Hebdo ou qu'on va s'abonner à Charlie Hebdo. Ce sont deux choses différentes. On peut défendre par principe l'absolue liberté d'expression d'un journal et se sentir à 100% solidaire de ce journal, de la possibilité pour ce journal d'exister. Ça peut aller pour certains jusqu'à décider de s'abonner, acheter le journal, quitte à ne pas le lire si c'est pas un journal qu'il a envie de lire, mais par solidarité, par témoignage, il y a des gens qui l'ont fait. Mais ce n'est pas soudainement se trouver en accord parfait. D'abord, ce serait impossible. Parce que c'était quoi Charlie Hebdo ? C'est quoi Charlie Hebdo ? Une rédaction ? Et c'est quoi une rédaction ? C'est un lieu de débat, c'est un lieu de conflit, c'est un lieu de controverse en permanence. Donc ça voudrait dire quoi ? Être sur la ligne d'un journal, ça ne veut jamais rien dire. Donc a fortiori, je pense qu'on a tendance à confondre deux choses. Défendre la liberté d'expression, c'est une chose. Ça n'a pas pour corollaire d'être d'accord avec tout ce que par principe, ce journal va dire ou publier dans l'espace public. Il faut défendre la liberté d'expression, c'est défendre aussi la possibilité de critiquer ce journal qu'on va défendre au nom de la liberté d'expression.
Anastasia Colosimo.
Moi, ce qui me semble, c'est qu'il y a un diagnostic qui n'a pas été très bien fait après les attentats, qui est que la raison pour laquelle Charlie Hebdo, en fait, était un magazine connu à l'international, un journal connu à l'international, la raison pour laquelle Charb était connu et a fait l'objet d'une fatwa, c'est parce qu'en France, il y a eu un procès contre Charlie Hebdo en 2007. C'est ça qui, malheureusement, les a tous rendus connus et qui a rendu extrêmement connu Charb. Ce procès-là, il a été intenté sur les fondements de la loi Pleven, qui est la loi de 1972, qui a considérablement modifié la loi sur la presse de 1881, qui a apporté des restrictions qui sont des restrictions très importantes, qui a aussi ouvert la boîte de Pandore parce que à partir de 1972, la loi sur la liberté de la presse n'a cessé en fait d'être raccourcie, empêchée de tous les côtés. Et ce procès de 2007, qui est un procès en blasphème, on n'a pas à ce moment-là, on ne s'est pas posé la question extrêmement sérieuse de savoir mais comment aussi notre législation, comment aussi les procès qui sont faits aujourd'hui beaucoup sur le fondement de toutes ces lois, d'une part, voilà, font une publicité internationale qui, à mon avis, peut être extrêmement nocive, mais aussi, on en reparlera sans doute, au niveau national, crispe énormément le débat.
Mais est-ce que justement, Anastasia Colosimo, ce phénomène que vous décrivez, il n'a pas été enrayé par ce qui s'est passé il y a 3 ans avec vraiment des engagements qui étaient forts? on a entendu les propos politiques, de dire on fera tout pour défendre la liberté d'expression. Ou bien est-ce que vous avez l'impression que ça a continué, que ça s'est peut-être même aggravé?
Mais je pense qu'il y a deux pans, c'est-à-dire qu'il y a un pan qui est le pan juridique. Sur le pan juridique, on n'a rien fait. Au contraire, même, on a continué à faire des lois, on a continué à faire des lois sur tout, absolument tout, et puis de réduire les procédures, et puis de mettre un juge unique sur les questions de liberté d'expression, alors que toute cette loi de 1881 était une loi qui était extrêmement libérale, et qui était d'ailleurs très forte dans le contexte européen et mondial à ce moment-là. Donc sur le plan juridique, on a pas fait mieux, on a fait pire, et quant à la pression sociale sur la liberté d'expression, je pense qu'au contraire, même, on est arrivé à un point de tension qui est encore plus fort.
Pardonnez-moi, j'allais dire Anastasia Polezibou. Non, vous êtes Aude Lancelin, n'est-ce pas? Aude Lancelin.
Je pense que le cas de l'islamisme, le cas de Charlie Hebdo est très, très spécifique, hein, et qu'il y a des problèmes de liberté d'expression qui se posent dans le pays, qui sont encore plus vastes et finalement très différents. Et moi, je trouve effectivement que nous sommes en recul sur toutes ces questions-là. Je pense notamment à une affaire récente, moi, qui m'a énormément choquée. Enfin, il s'agit d'un humoriste, Tex, donc, qui a été viré en 48 heures de la télévision pour une blague, certes un peu lourde, mais pas criminelle, sur les femmes battues. Quand on se souvient de ce que Coluche osait il y a, je sais pas, 40 ans, c'est tout de même inouï. Enfin, il faisait des blagues sur les viols. Moi, Monique, je l'ai violée, j'ai pas porté plainte. Alors si on va par là, qu'est-ce qu'il aurait fallu faire, l'emprisonner? Non, si vous voulez, moi je trouve qu'il y a quand même un climat, d'ailleurs, qui est entretenu par l'État lui-même, par l'État français, extrêmement détestable sur ces questions. Je trouve que Marlène Schiappa, quand je la vois, quand je vois ses interventions...
Je rappelle, c'est le secrétaire d'État à l'égalité entre les femmes et les hommes.
Bon, elle est intervenue dans cette affaire très très rapidement. Elle est intervenue aussi sur les affaires de harcèlement de rue en se faisant filmer, comme ça, marchant la nuit, je ne sais plus si c'était à la chapelle ou dans je ne sais quel mauvais lieu parisien. Il y a un côté petit personnage de Philippe Muret, je sais, l'écrivain Philippe Muret, qui était un des pamphlétaires les plus drôles des années 90 et 2000, des mutins de Panurge, de la cage aux phobes, les islamophobes, enfin tous les phobes qu'on connaît. Et c'est vrai qu'il y a un côté comme ça extrêmement conformiste, extrêmement politiquement correct. Oui, là, il faut ressortir ce vieux terme.
Et là, c'est quoi? C'est davantage du coup quoi, une pression sociale que véritablement un poids, comment dire, un renforcement d'une législation qui aurait pour effet justement qu'on punit davantage ou qu'on sanctionne davantage tout ce qui relèverait des écarts à ce qui est admis aujourd'hui?
Oui, moi je trouve, et d'ailleurs les humoristes se sont exprimés à cette occasion, ils ont été nombreux, que leur travail devient réellement extrêmement difficile. Moi je n'aime pas cette société où on peut débarquer comme ça. Un type pour lequel personnellement c'est pas mon type d'humour, je suis pas le public pour ça, mais enfin Bertrand Cantat qui a tué une femme au minimum, fait la une des Inrecuptibles, et comme ça, et une ministre se permet d'intervenir pour réglementer la parole humoristique sur les ondes. Je ressens un reflux de la liberté sur toutes ces questions dans notre pays.
Est-ce que vous partagez déjà ce constat, Sylvain Bourmeau, et comment est-ce qu'on peut expliquer effectivement que, justement, j'y reviens, hein, 3 ans après avoir été des centaines de milliers à défiler dans la rue en disant « je suis Charlie », à vouloir défendre la liberté d'expression, qu'on en arrive à ce que cette situation que viennent de décrire Anastasia Colosimo et Aude Lancelin, on a l'impression qu'on est vraiment très très loin justement de ces déclarations d'intention extrêmement généreuses et ouvertes.
C'est une longue histoire, je pense que les attentats d'il y a 3 ans... évidemment, ont joué un rôle important, mais n'ont pas permis de clarifier les choses et de bien comprendre ce que c'était que la liberté d'expression. Je crois que c'est une histoire qu'on peut, à certains égards, faire remonter aux années 1990, au moment du vote de la loi Guesso, par exemple, amendement de cette loi de 1881 sur la presse. à l'époque. Je pense que ça participe d'un mouvement plus large dans nos sociétés qu'on peut dire de judiciarisation de la société. Et je crois que Anastasia Colosimo avait raison de distinguer ce qui relève du juridique et ce qui relève du politique. Tout est là. On a voulu, en réglementant des choses par le droit, on a provoqué une disparition du politique. Et ça, c'est très grave. Et donc, en fait, on entend faire jouer au droit le règlement de conflits qui devrait être, dans une démocratie et dans un espace public de liberté d'expression, des choses qui devraient être au cœur de ce débat.
Alors s'agissant de l'humoriste qu'évoquait Aude Lorstin, c'est pas le droit, c'est pas un procès. Là, c'est vraiment une décision.
Oui, alors c'est pire que ça, mais c'est toujours appuyé sur la menace du droit. C'est-à-dire que c'est ça qui fait aujourd'hui.
Il va être renvoyé pour ça.
En fait, moi, je voudrais dire une chose qui me paraît très claire vu d'aujourd'hui, mais qui me semblait déjà à l'époque. Quand un certain nombre d'historiens, au premier rang desquels un historien extrêmement important, comme Pierre Vidal-Naquet, est parti en guerre contre cette loi Guesso, en disant que c'était une mauvaise idée.
Il faut rappeler ce que c'était la loi Guesso.
C'est une loi qui visait à criminaliser les propos. Donc criminaliser des propos, hein, c'est pas rien, qui relevaient du racisme, de l'antisémitisme et du négationnisme. Mais quand vous avez quelqu'un qui est la personne qui a produit les travaux les plus importants s'agissant de la lutte contre le négationnisme, contre Faurisson et toutes ces choses dangereuses tenues par des nazis ou des gens qui font vivre leur héritage. Quand vous avez quelqu'un qui a produit ses travaux les plus importants de lutte intellectuelle et politique contre ces gens-là, qui vous dit non, la bonne façon de faire, c'est pas une loi, eh bien, il avait tout compris. C'est-à-dire que, malheureusement, Vidal-Naquet est mort depuis longtemps, mais depuis, ça n'a cessé de s'empirer. C'est-à-dire qu'à mesure qu'on prétend régler par la loi ce genre de choses, on n'a plus les discussions politiques, on n'a plus les arguments politiques, on n'a plus les arguments intellectuels, et on se trouve affaibli face à toutes ces horreurs. On a vidé de sa substance le débat politique. Et je pense qu'il faut, et ça, ça a toujours été ma position, extrêmement libérale de ce point de vue-là. Quand je lis, en 1999, les propos de Renaud Camus, antisémite, je dis « ce type est antisémite ». On me répond « ah, vous voulez interdire son livre ». Mais j'ai jamais voulu interdire quoi que ce soit. Son livre a le droit de paraître. Mais moi, j'ai le droit de dire qu'il est antisémite. Et le problème, c'est que aujourd'hui, quand vous qualifiez quelqu'un d'antisémite parce qu'il l'est objectivement, vous vous retrouvez dans la position du censeur.
Vous le renvoyez devant les tribunaux.
Quand même. Et ce n'est pas la bonne attitude. Encore une fois, je pense qu'il faut pouvoir appeler un chat, en l'occurrence un faf, et mais non, mais c'est élémentaire. Or, on est sorti de ça, et ça vaut pour d'autres domaines que celui que je viens de prendre comme exemple. Je crois que il était extrêmement important de défendre des principes d'un côté et d'autre part d'avoir des lignes éditoriales. Prenez quelqu'un pour qui j'avais la plus grande admiration, un éditeur qui est mort il y a longtemps, Jérôme Lindon, qui était comme par hasard celui de Pierre Vidal-Naquet. Sa position était la liberté d'expression absolue, à tel point d'ailleurs qu'il siégeait dans les commissions des publications pour la jeunesse parce qu'il pensait que c'était mieux que soit lui qui soit plutôt que d'autres moins libéraux que lui. Il était pour la défense de la liberté d'expression absolue. Ça veut dire qu'à la limite, il était pour que se publient des textes négationnistes. Mais est-ce que comme éditeur, il aurait publié des propos antisémites ou des textes d'antisémites? Certainement pas. Donc il y a une différence entre défendre le principe que puissent paraître des livres et ce que vous faites, la responsabilité que vous prenez comme éditeur à faire paraître ou pas tel livre. Et ça vaut pour les journalistes qui en parlent, ça vaut pour les hommes politiques ou tous les citoyens qui prennent des positions publiques dans l'espace public. Je pense que c'est ça qu'on a complètement perdu de vue depuis. On mélange tout. Il y a le droit d'un côté, il y a la politique de l'autre. Donc on a intérêt à faire attention à séparer les deux.
Et du coup, quoi, le droit qui finit presque par déresponsabiliser et à contraindre cette liberté d'expression, Anastasia Colosimo?
Moi, ça me paraît évident. Là où je rejoins complètement ce que vient de dire Sylvain Bourmeau, je pense que typiquement sur la question des lois mémorielles, il y a un gros problème aujourd'hui avec cette loi Guesso qui est venue condamner Alain Soral, Dieudonné par exemple. Il y a un problème qui est immense, c'est que comme on condamne Alain Soral et Dieudonné, on ne prend même plus la peine de véritablement avoir un discours contre eux. Parce qu'on se dit, bon, bah, de toute façon, on va régler ça dans les tribunaux, ils vont être condamnés et puis c'est terminé. Ce qui fait que, par exemple, il y a toute une jeunesse qui les écoute et qui n'a même pas, en fait, de contre-argument. puisque personne ne prend même plus la peine. Je veux dire, s'il faut leur remontrer que la Shoah a bien eu lieu, il n'y a pas de problème. On a les historiens, on a les preuves et on peut le faire. On a arrêté de faire ce travail-là, et pour moi, c'est une démission qui est immense, qui est vraiment terrible. Donc ça, c'est et là, le législateur est vraiment responsable. Le problème de ces lois-là, il est terrible, c'est que vous imaginez bien, on a fait la loi Pleven, on a fait les lois mémorielles. Qui va être la personne qui va arriver au Parlement et qui va dire, alors attendez, on annule ces lois-là? C'est quoi? C'est envoyer quel message? De dire, par exemple, on supprime la loi Guesso. Ça veut dire quoi? Allez-y, répandez-vous en insultes. Donc en plus, ce sont des lois qui ont une sorte d'effet cliquet, qui sont indétricotables, sur lesquels on peut pas revenir, et qui créent cette espèce de tension, et en plus qui créent la surenchère. Parce que ce qu'il y a derrière aussi, c'est que, évidemment, tout le monde veut sa loi. On l'a vu très bien avec la loi de 2001 ensuite sur le génocide arménien, alors qu'il ne criminalise pas cette fois-ci le négationnisme du génocide arménien, mais quand même, cette loi existe. Et on voit bien qu'en plus, ça engrange une espèce de dynamique de concurrence intercommunautaire, de concurrence mémorielle, qui est très très nocive.
Mais en même temps, regardez ce qui se passe sur les réseaux sociaux aujourd'hui, Anastasia Colosimo. Quand ces lois ont été prises, on n'en était pas du tout au développement d'Internet tel qu'il existe aujourd'hui, et des réseaux sociaux encore moins, le déferlement, enfin c'est pas que ça bien entendu, mais enfin il y a quand même un déferlement de haine, il y a quand même des propos
mais
qui seraient condamnables,
alors,
ça
je
ne
pense
les empêche
que, alors,
pas de
alors, voilà, alors c'est même. Pour ça que c'est, non mais alors voilà, c'est passionnant, parce que je pense qu'il y a un présupposé dans toutes ces lois-là qui est absolument terrible, et il y a une vraie discussion philosophique derrière, c'est-à-dire que à partir d'un certain moment, les parlementaires ont décidé que dire les choses, c'était soit encourager les autres à agir, soit soi-même être dans une position où on est prêt à agir. Moi, je pense pas du tout, par exemple. Je pense qu'on peut insulter les gens toute la journée et pour autant pas les tuer, pas les frapper, etc. D'ailleurs, je pense même le contraire. Je pense que la parole est extrêmement libératrice. Ça, je pense que aussi, quand on insulte les gens, bah généralement on les frappe pas. Donc il y a ça. Et alors ensuite, vous me dites les réseaux sociaux. Mais attendez, on n'a pas attendu les réseaux sociaux pour savoir que les gens ont des pensées mauvaises et des passions mauvaises. Enfin, je veux dire.
Oui, mais c'est que la capacité à diffuser ses pensées, elle est quand même beaucoup plus facilitée par les réseaux sociaux. Mais il faut
revenir quand même.
Les écrits florissants, tout le monde n'y avait pas accès avant.
Non, mais il faut distinguer les propos généraux et des propos qui sont diffamatoires et qui sont agressifs à l'endroit d'une personne en particulier.
D'accord.
Ce sont des choses différentes.
Mais c'est là où la loi a péché, en fait. La loi, ce qu'elle a péché, c'est qu'elle a inventé cette notion de groupe. Elle a inventé le fait que les associations peuvent porter plainte au nom des groupes. C'est ça le problème. Vous savez, dans la Rome antique, la seule limite à la liberté d'expression, c'était la diffamation. C'était un crime d'honneur quasiment, et on était restauré en tant que citoyen. C'était purement individuel. Je pense que c'est à ça qu'il faudrait revenir, mais c'est très compliqué.
Aude Lancelin.
Mais justement, Hervé, vous le dites vous-même, d'une certaine façon, ces lois ont été votées et la parole antisémite, xénophobe, délirante, prolifère. Donc ça n'a rien empêché. Et même ça
mais
peut...
Mais ça en fait peut-être des lois inefficaces, mais pas des lois qui sont nocives.
Mais vous savez... Mais... C'est, la question est posée tout de même, parce que d'une certaine façon, l'interdit attire, exerce une forme d'attraction. Ça, c'est très intéressant, les expériences qui ont été tentées récemment du côté de Facebook. D'ailleurs, ça va peut-être nous amener à la question des fake news qui a récemment émergé dans le débat.
C'est la question qui arrive juste après.
Mais ils ont observé que le fait de censurer ces contenus-là sur leur serveur les rendait d'une certaine façon plus attractifs. Et ils ont arrêté pour le moment la procédure qui était en cause. Et on peut prendre aussi un exemple français. On peut prendre l'exemple du logiciel qui a été de l'application qui a été lancée par le journal Le Monde, le Décodex, qui est censé, comme ça, trier les sites honorables et les poubelles de l'information. Et d'une certaine façon, certains s'en servent pour s'orienter vers les sites rouges, vers les sites interdits, sulfureux, et donc où la vérité forcément va émerger, où les puissants forcément seront mis à nu. Donc c'est très compliqué ces histoires-là. Et surtout quand on vit des périodes comme la nôtre de crise profonde de confiance du peuple à l'égard des élites, où la parole publique est systématiquement suspectée et discréditée, il est très très difficile psychologiquement de lutter contre la puissance d'attraction des lieux interdits.
Et est-ce que cette difficulté à lutter contre ces puissances-là, Audelancelin, puisque vous avez évoqué cette question des fake news, vous pensez que si jamais il y a une loi, comme l'a annoncé avant-hier lors de ses vœux à la presse Emmanuel Macron, loi contre les fake news, on se retrouvera confronté exactement à la même difficulté, que c'est quelque chose qui peut être nocif pour la liberté d'expression que de vouloir légiférer sur les fake news, c'est-à-dire de donner le pouvoir à un juge, de dire, bah voilà, telle nouvelle n'est pas du domaine de la vérité et de décider de ce qu'est la vérité, de ce qu'est le vrai et de ce qu'est le faux.
Oui, moi je trouve ça extrêmement dangereux. La liberté d'expression et de circulation des opinions est protégée par la Constitution. C'est notre bien le plus précieux. D'une certaine façon, c'est le socle de légitimité de notre démocratie aussi. Hein, tant qu'on ne garde pas en tête cet idéal de liberté d'expression, quel sens peut bien avoir le vote et la démocratie ?
Elle est protégée et encadrée quand même.
Oui, mais si vous voulez... Forcément, ça ne peut qu'avoir des effets délétères. D'abord, il faudrait qu'on nous apporte la preuve qu'un juge est habilité à trancher entre ce qui est une fake news et ce qui est une vérité établie. Bon courage. Mais en plus, vous allez de toute façon susciter chez les gens l'idée que certaines vérités sont indicibles. Et d'une certaine façon, je ne vois pas en quoi ça peut mettre un coup d'arrêt en quoi que ce soit à la diffusion de fausses nouvelles. Et je peux en revanche vous certifier que ça ne restaurera pas la confiance du public à l'égard de la presse, à l'égard des médias, à l'égard du pouvoir.
Moi j'ai un scoop, Hervé. En fait, j'ai le texte de ce projet de loi sous les yeux. Je le cite, ouvrez les guillemets, la publication, la diffusion ou la reproduction par quelque moyen que ce soit de nouvelles fausses, de pièces fabriquées, falsifiées ou mensongèrement attribuées à des tiers lorsque faite de mauvaise foi elle aura troublé la paix publique ou aura été susceptible de la troubler sera punie d'une amende de 45 000 euros.
Mais c'est pas
alors
vrai.
C'est une fake.
Bah,
non,
il
je vous
ce
le
texte.
Lis. C'est une fake news que je viens de vous donner puisque c'est pas un scoop. Je viens de vous citer en fait un extrait de la loi de 1881. Cette loi sur la presse, elle fait partie des principes fondamentaux des lois de la République. C'est-à-dire du bloc de constitutionnalité déjà depuis les années 70 selon le Conseil constitutionnel. C'est-à-dire qu'en fait c'est un texte constitutionnel. Donc je m'aperçois que M. Macron, à l'image de son ministre de l'Éducation nationale, annonce des choses qui existent déjà. Ça, c'est la technique Blanquer, on sait depuis des longs, et on va faire de l'éducation morale. Donc là, en fait, cette loi... Mais ça veut dire quoi ? Ça existe. Il y a déjà un texte, il est constitutionnel, qui permet de sanctionner la publication de fausses nouvelles.
Donc j'en déduis que vous ne partagez pas l'inquiétude d'Audelancelin.
J'ai pas donné,
parce que si ça existe,
j'ai pas donné,
finalement, c'est pas si grave que
non,
ça.
Non, mais j'ai pas donné mon sentiment. J'ai rappelé quel était le droit positif.
Et votre sentiment, c'est quoi ?
Et donc, le discours, en l'occurrence présidentiel, relève de la gesticulation intellectuelle. Il n'a pas grand-chose à voir avec la réalité du droit. Qu'est-ce qu'il en est ? On a les textes de loi, simplement, comme le disait Audelancelin à l'instant. C'est très compliqué pour un juge, sur la base de ce texte ou sur la base d'un autre texte qui dira en grosso modo la même chose, de décider ce qui relève d'une vraie ou d'une fausse information. Néanmoins...
Donc on peut dormir tranquille.
Non, parce que heureusement d'ailleurs, il y a un bureau de, vous savez, de vérification de la publicité, il y a des gens qui font des actions en justice régulièrement à propos de fausses informations. Il y a une régulation de ça, ça existe. Donc on ne peut pas non plus d'un revers de la main le balayer. On en a besoin, mais voilà, il faut faire attention à ces instruments et surtout arrêter de monter en épingle des choses comme ça, faire attention aux outils juridiques dont on dispose déjà.
Oui, moi je voulais juste rappeler quand même un principe qui est important, qui est que même si la liberté d'expression elle est encadrée, la liberté d'expression est une liberté protégée, pas pour les propos sympathiques, les mots d'amour et les choses gentilles. Si on protège la liberté d'expression, c'est d'ailleurs l'expression même de l'arrêt Handicide, je crois, de 1972 de la CEDH, est très vrai, c'est pour les propos qui peuvent inquiéter, choquer ou heurter. Donc je pense que ça c'est quand même très important de le rappeler. Ensuite, en ce qui concerne les fake news, il y a une espèce de très grande paranoïa aujourd'hui qui déjà, moi, je trouve est très grave parce qu'il est évident que les journalistes ont toujours des biais, ils ont des biais idéologiques, ils ont des préférences, ils ont des grilles d'interprétation qui sont différentes pour un tas de raisons. Enfin, le langage et l'humanité quand même sont bâtis là-dessus. C'est normal que différents médias avec différents avis donnent des interprétations différentes différentes des mêmes événements. Et donc, il y a beaucoup de nuances de vérité pour un même événement. Alors là, on ne parle pas vraiment des trucs très conspirationnistes, etc. Mais pour un même événement, on peut avoir un tas d'interprétations. Beaucoup de médias d'État font aussi de la manipulation et de la propagande. C'est quand même vieux comme le monde. Si on commence à interdire certaines informations et pas d'autres, je pense qu'on s'expose quand même à des cas extrêmement, extrêmement complexes.
Oui, moi je trouve ça vraiment dommageable que Emmanuel Macron nous ramène dans le débat français la question des fake news qui déjà polluent les États-Unis. C'est une petite touche de Trumpisme dont on se serait bien passé, voyez-vous. Je pense que c'est un leurre, cette histoire de fake news. C'est vraiment une façon pour les élites américaines, les élites démocrates notamment, de ne pas porter la responsabilité de leur échec électoral et de l'élection de ce clown à la tête de la première puissance mondiale. Et c'est une façon de ne pas voir ce qui est devenu le peuple ouvrier américain. Et c'est une façon de ne pas accepter le verdict démocratique des urnes. Et Donc, on voit la main de la Russie partout. On pense que c'est sur Facebook que se fait l'élection. J'ai bien peur que tout ça soit un rideau de fumée. Et très franchement, que nous Français, nous soyons de fait contraints par la parole présidentielle à nous emparer de ces débats, c'est vraiment triste.
Et je précise d'ailleurs que ce dimanche, dans Dimanche et Après, Julie Gacon consacrera son émission à cette question des fake news. Je reviens juste un instant à ce que vous disiez juste avant, Anastasia Colosimo, en rappelant qu'effectivement, la liberté d'expression, elle est protégée, non pas pour protéger les mots d'amour, mais plutôt ce qui peut déranger. Il y a par exemple des propos qui, semble-t-il, ont dérangé dernièrement. C'est lorsque Rokhaya Diallo a parlé de racisme d'État, ce qui lui a valu d'être écarté du Conseil national du numérique. À laquelle elle avait été conviée à participer. Est-ce que là, par exemple, ça fait aussi partie de ce qu'on pourrait qualifier d'une atteinte à la liberté d'expression, selon vous ?
Alors, c'est pas exactement ce qui s'est passé. C'est-à-dire qu'elle a été. Non, mais c'est pas parce qu'elle a parlé. Elle parle de racisme d'État depuis très longtemps, en fait.
Oui, mais c'est ce qui lui a été reproché.
Oui, elle a été écartée parce qu'on a considéré que c'était une figure trop militante, trop, etc.
Ses propos, alors, lui interdisaient, même si ça venait pas de
l'intérieur. Parce qu'elle était trop militante. Voilà. Oui, alors je pense qu'il y a une question de compétence. Bon, voilà, on ne peut pas savoir si effectivement c'est la personne la plus compétente sur le numérique. En revanche, si elle a été écartée pour ces raisons-là, c'est très grave. Et évidemment, c'est très grave.
En tout cas, la campagne qui a été menée, elle tournait justement. Alors, la campagne. On lui reprochait d'avoir tenu ses propos.
Ça, oui. Sur les réseaux sociaux, ça a été terrible. Il y a eu une avalanche d'insultes dont elle a fait l'objet et qui est terrible.
Non, mais c'est une pantalonnade du gouvernement, on est d'accord là-dessus. Mais ça n'a rien à voir avec la question de la liberté d'expression. Strictement rien à voir. Elle a des positions politiques, c'est un choix politique. Ce conseil du numérique, il est composé politiquement. On en a eu la preuve là. Avec ce qui s'est passé. On pourrait rêver d'une démocratie dans laquelle ce genre d'organisme est composé de gens qui reflètent des organisations qui sont investies. Moi, j'aimerais bien qu'il y ait des gens, je ne sais pas s'ils y sont, de la Quadrature du Net, par exemple, ou de la Ligue des droits de l'homme, des gens qui s'occupent de liberté publique.
Ça paraissait effectivement pas très justifié.
Compétent. Mais ça n'a rien à voir avec la question de la liberté d'expression. Juste un mot, parce que je suis en désaccord total avec ce qu'a dit Laurent Aude à l'instant, Aude Lancelin, sur les fake news. Je pense que autant c'est ridicule de vouloir les réglementer par la loi, autant je pense qu'on a un vrai problème avec ça, que c'est pas qu'un truc qui concerne les Américains, que c'est quelque chose qui va miner considérablement l'espace public si on continue de ne rien faire, mais que le problème derrière ça, c'est le problème des modèles économiques de beaucoup de médias. C'est pas les problèmes des réseaux sociaux en tant que tels. Les réseaux sociaux ont bon dos. Et quand on entend des gros médias qui gagnent de plus en plus d'argent en utilisant les réseaux sociaux nous expliquer que c'est la faute aux réseaux sociaux, moi ça me fait rire, mais en ayant très peur pour la suite.
Écoutez, Sylvain, non, moi, on a un problème avec les fake news, certes, mais aussi on a un problème avec les médias qui sont détenus à 90% par le CAC 40. Et
bien
c'est
sûr,
un problème au moins aussi important.
On est d'accord là-dessus aussi. Voilà. Mais il y a un problème de modèle économique
si
qui font que les médias gagnent de l'argent avec du buzz.
C'est qu'on se serve de l'affaire des fake news comme rideau de fumée, justement, pour donner le sentiment que les seuls médias fiables sont les médias mainstream.
Je pense aussi qu'il y a quelque chose qu'on a évoqué plusieurs fois, mais qui est très important. L'américanisation du débat sur ces questions-là, elle est extrêmement forte. Rokhaya Diallo, elle a quand même été interrogée par les médias américains en expliquant qu'elle a été renvoyée parce qu'elle est raciste, etc. Que ça soit les fake news, la bien-pensance ou le puritanisme, sont toutes ces choses qui nous viennent des États-Unis et contre lesquelles on se révèle assez assez faible, je trouve, dans nos propres médias.
Bon, on serait bien inspiré d'importer la liberté d'expression à l'américaine dans notre pays.
Bah non, mais c'est ça, ça fonctionne pas du tout, parce que juridiquement, il y a le premier amendement, mais la réalité, c'est que la pression sociale est inimaginable.
Faut-il importer le premier amendement en France ? Ce sera pourquoi pas l'objet d'une prochaine question. Merci beaucoup à tous les trois d'avoir participé à ces discussions. Sylvain Bourmeau, Aude Lancelin et Anastasia Colosimo. Discussion que vous pouvez réécouter aussi longtemps que vous le souhaitez sur notre site internet franceculture.fr à la page du Grain à Moudre. Merci à l'équipe du Grain. L'équipe, ça ne veut rien dire. Antoine Dulster, Fanny Richer, Marine Beccarelli, Leïla Saïdi. Émission réalisée par Alexandra Longuet avec la prise de son Bruno Gagnère-Fontanille.